Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
François Thurion, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à la réserve des Grands Jettes, tout près de Villeneuve, du côté de Villeneuve. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes le directeur roman de l'association Bird Life, association suisse de protection des oiseaux. Quelle est l'importance pour vous de cette réserve des Grands Jettes?
Cette réserve, elle est fondamentale. C'est la dernière zone naturelle des rives lémaniques du côté suisse. C'est un peu le symbole de ce qui peut nous rester comme nature précieuse ici sur les bords du lac Léman. Et donc, il y a un enjeu effectivement particulier à protéger ce site et d'autres sites qui sont devenus vraiment rares en Suisse. Et donc, ici, c'est vrai qu'on a aussi un peu, c'est presque une micro-Suisse où on voit qu'on a quand même une pression très forte du territoire et des habitations autour de cette réserve et donc il y a cet enjeu de cohabitation aussi qui est intéressant, passionnant et fondamental.
Alors c'est une réserve qui est gérée par ProNatura, vous présidez la fondation des Grands Jettes.
Je viens de quitter la fondation, mais c'est vrai que j'ai présidé pendant 9 ans maintenant et puis c'est vrai qu'un des enjeux c'est de pouvoir créer un lieu d'accueil digne de ce nom, puisque dans la plupart des autres sites naturels de Suisse de cette importance, on a un centre nature, un centre d'accueil qui permet aux visiteurs de comprendre aussi le sens de la protection et ce qui est possible de faire dans une réserve, ce qui n'est pas possible de faire. Et ça, c'est vrai que c'est le grand projet, je dirais, pour ici, pour les Grands Jettes.
Pour les prochaines années, vocation pédagogique, donc on l'entend bien.
Oui, absolument. Oui.
Avec probablement des jeunes gens aussi qui pourront venir avec les écoles, c'est déjà un peu le cas. Chaque année, sur cette antenne de Radio Chablais, on l'a fait dans cette émission d'ailleurs il y a quelques mois, on parle du nettoyage des Grands Jettes, toujours avec une tristesse certaine plutôt, puisque les plastiques s'accumulent, on est dans une zone en plus où le Rhône a un rôle de rabatteur, de saleté sur cette réserve. Quel est votre point là-dessus?
Oui, c'est vrai qu'on voit cette civilisation du plastique, on n'a pas encore trouvé des solutions vraiment pour limiter la production de ces plastiques, parce qu'on fait appel effectivement à énormément de bénévoles pour les nettoyer. Ces plastiques deviennent aussi de plus en plus petits, ils sont de plus en plus difficiles à pouvoir aller prélever dans la nature, ils finissent par se décomposer, se retrouver partout dans les chaînes alimentaires, dans les écosystèmes. Alors la solution, ça serait vraiment de limiter cette production de plastique. C'est un problème évidemment planétaire, mais ici au Grands Jettes, on le voit très bien, parce que dès qu'on se promène un peu au bord du lac, on voit des résidus de plastique, et il faut saluer aussi le travail de toutes ces équipes qui nettoient ce site.
Alors, il y a quelques mois, on parlait avec la Fondation Marthe, qui est amiguée, qui s'en occupe chaque année, qui était un petit peu désespérée cette année d'ailleurs, qui disait que dans certaines zones, c'était la dernière fois qu'elle le faisait, parce que sentiment du travail inutile, parce que justement, sans cesse renouvelé, quoi.
Oui, c'est ça. On ne s'attaque pas à la cause, et c'est vraiment seulement en essayant de s'attaquer à la cause des problèmes environnementaux qu'on arrivera à les réduire. Et encore une fois, le travail de nettoyage est très important, mais ce n'est pas évidemment avec ce travail qu'on arrive à solutionner ce problème.
C'est quoi Bird Life ?
Bird Life, c'est une grande association, la plus grande au niveau mondial. Il y a 120 partenaires comme Bird Life Suisse qui représentent cette grande organisation sur la planète, donc avec des millions de supporters et de membres. Elle agit effectivement pour les oiseaux, mais pas seulement. Les oiseaux sont des indicateurs de l'état de notre environnement. Et donc Bird Life s'engage pour la biodiversité, ici en Suisse, mais aussi à l'étranger. Et voilà, c'est une organisation que je trouve formidable, parce que elle, avec son réseau fédéraliste, elle permet d'agir au-delà des frontières, et ça c'est fondamental.
17 associations cantonales autour de l'association romande.
Oui, au niveau
de l'association suisse, pardon.
Oui.
Vous dirigez la partie romande de cette association, donc vous avez le lien, j'imagine, avec les sections cantonales.
Exactement, oui. les associations cantonales, les sections locales, donc ce réseau effectivement est très intéressant, parce qu'il nous permet d'avoir des retours autour du terrain, de pouvoir aussi être plus fort, puisqu'on a, on a vraiment des antennes un petit peu partout sur le territoire, et ça, ça nous donne pas mal de force, et puis aussi des moyens d'agir aussi localement.
On a en Suisse une station ornithologique, hein. Quel est votre rapport? C'est la Confédération, la station ornithologique?
Non, alors en Suisse, on a effectivement un grand institut scientifique, c'est la station ornithologique suisse, qui travaille un peu dans les mêmes domaines que nous. La station est dépositaire de toutes les bases de données, c'est la station qui s'occupe de faire le travail scientifique, de récolte des données sur les oiseaux en Suisse.
L'inventaire des espèces.
C'est aussi eux qui s'occupent du bagage des oiseaux, enfin des bases de données sur le bagage des oiseaux, les inventaires des oiseaux nicheurs, des oiseaux hivernants.
Juste un mot, le bagage des oiseaux, c'est quoi?
Alors c'est en fait de baguer des oiseaux, c'est donc de mettre une petite...
Les oiseaux migrateurs avec leurs petites valises, c'est pas ça. Hein.
Non.
Les bagues évidemment qu'on met aux pattes des oiseaux, c'est pour ça. Pouvoir les recenser plus tard.
Quoi. Exactement. Mmh.
Bon, j'ai vu grâce à la page internet de BirdLife qui est très bien faite, une vraie page historique, et j'aimerais qu'on s'y penche un peu. Vous avez célébré le siècle d'existence, alors ça s'appelait pas BirdLife au début, hein, c'était l'Association Suisse de la Protection des Oiseaux. 1922, j'y ai vu une résonance. Hein. On est là à la fin du 19e siècle, début du 20e, à l'émergence des sociétés protectrices des animaux et de la conscience de la nature.
Oui, alors à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des problèmes un peu différents des problèmes qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas encore cette crise de la biodiversité qui est vraiment un des éléments marqueurs de la fin du 20e siècle et du siècle du 21e siècle qu'on traverse actuellement. À l'époque, c'était surtout la chasse des oiseaux qui posait problème. Les protecteurs des oiseaux voyaient avec effroi qu'on tirait énormément d'espèces, notamment les hérons pour les plumes qu'on parait en fait les vêtements.
Le combat des chapeaux. Hein.
Exactement.
Le combat des chapeaux dans les années 20.
Exactement. Les chapeaux notamment des dames, mais pas que. Et il y avait aussi les plumes étaient très utilisées dans les vêtements, et ça, c'est évidemment ça a poussé à l'extinction certaines espèces, ou au seuil de l'extinction certaines espèces. Et c'est cette cause-là qui a d'abord été embrassée par les premiers pionniers de la protection des oiseaux. Et à l'époque, c'est en Angleterre que BirdLife International est né, la même année que BirdLife Suisse, évidemment qui s'appelait, comme vous l'avez dit, pas encore BirdLife. Mais c'est finalement quelques pionniers qui se sont téléphonés, qui ont dit il faut qu'on intervienne un peu internationalement pour essayer de réduire ce problème et d'essayer d'éviter que des espèces ne disparaissent à cause de la mode vestimentaire.
Ouais, c'est fascinant de voir le déroulé du siècle, hein, grâce à cette page d'histoire que vous mettez sur votre site internet, parce qu'elle reflète aussi la vision qu'on a de la nature, hein, simplement dans nos sociétés occidentales. Déjà, la naissance de ces associations de protection des animaux correspond, ça c'est un truc que j'avais vu il y a longtemps et qui m'avait fasciné, avec la baisse de la mortalité infantile chez les humains. Hein. À partir du moment où on perdait plus 3-4 enfants par couple, on a pu se pencher sur le sort des animaux.
Exactement. Et je pense que cette empathie aussi qu'on peut avoir pour les animaux, elle est fondamentale, parce que c'est souvent un levier, un ressort qui nous permet, ou qui permet aux individus de se dire, ah oui, à côté de nous, omniprésents sur cette planète, on a d'autres animaux, des plantes aussi qui partagent notre habitat, et on doit aussi leur laisser une place et essayer de se préoccuper de leur sort.
Bon, comme je le disais, on voit évoluer notre rapport à la nature, à l'environnement. Comme vous le disiez au début, c'est la chasse, c'est des chasses excessives, parfois des chasses traditionnelles aussi. Hein. J'ai eu des choses sur le lac de Constance où on chassait les canards, c'était une tradition, et il y avait des vrais carnages de canards en hiver. Il y a eu des combats pour ça, il y a eu des combats pour la préservation des marais, toutes sortes de choses. Et puis j'ai vu une date alors terrible, parce que c'est mon année de naissance, 1970, première année européenne de la protection de l'environnement, je crois, ou de la nature, avec un slogan, hein, qui était « Avant qu'il ne soit trop tard ». Quand on lit ce slogan, à 50 ans plus tard, c'est presque à pleurer, hein, parce qu'on est encore en train de dire avant qu'il ne soit trop tard.
Oui, oui, la situation s'est beaucoup péjorée depuis les années 1970. Les fameuses listes rouges des espèces menacées n'ont fait que s'agrandir. Les scientifiques nous parlent maintenant d'une sixième extinction de masse des espèces, du vivant. Et évidemment, c'est les activités non contrôlées de l'espèce humaine qui en sont la cause essentielle. Et donc, ce taux d'extinction des espèces est bien plus élevé que l'évolution naturelle de la planète. Et donc, c'est fondamental de s'investir et de s'engager au niveau individuel, mais surtout aussi au niveau collectif et au niveau sociétal pour que les choses changent. Parce qu'on a peut-être plus l'impression de ça, mais l'être humain fait aussi partie de la nature et il ne peut pas construire sa propre société sans respecter finalement le vivant, puisque la nature nous offre évidemment des services incroyables, gratuitement. Et ces services, ils sont menacés aujourd'hui clairement par nos activités.
Sixième extinction de masse, première dont on peut dire elle a une cause anthropique, elle a une cause humaine.
Exactement.
Il y a d'autres combats, je reviens un peu à la page historique, d'autres combats déterminants, symboliques, c'est aussi certains grands oiseaux qui ont été beaucoup chassés, l'aigle royal, le gypaète, hein, le fameux, qui avait disparu, qu'on a réintroduit. Ça a été aussi une phase importante, les oiseaux vedettes, en somme.
Oui, oui, et BirdLife s'est engagé dans les années 50, l'aigle royal était encore chassable et on a pu obtenir sa protection à l'époque. Puis d'autres espèces ont suivi.
Le tétra, vu qu'on a protégé la poule beaucoup plus tôt que le mâle, bizarrement.
Ouais. Exactement, et voilà, on a eu certains succès au niveau de la protection de ces espèces. Après, évidemment, le grand défi, c'est de protéger, d'essayer de aussi recréer des habitats pour ces oiseaux et les autres espèces, parce que la protection directe contre la chasse, c'est une chose, mais il faut aussi que ces espèces aient encore un avenir avec des habitats de qualité. Et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais chaque espèce a ses propres exigences. Ce qu'on appelle ça les exigences écologiques. Donc elles doivent avoir à manger, ces espèces, elles doivent aussi avoir un habitat et chaque partie de cette mosaïque du vivant a ses propres besoins très, très spécifiques et il faut essayer de considérer tout ça pour arriver à préserver cette biodiversité.
Bon, on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. François Turian, toujours dans cette, à l'orée hein, de cette réserve des Grangettes, où on l'espère les oiseaux vont pas trop mal, mais vous allez nous le dire.